Le tournage de Kaamelott, le film, a duré 8 mois dans plusieurs pays avec des effets spéciaux. Et j'ai retrouvé Alexandre Astier en salle de réunion.
Normalement, peut-être c'est dans des lieux un petit peu qui parlent aux invités, c'est ça, un petit peu.
Parfois, c'est chez les gens.
Ah, c'est chez les gens.
Mais vous êtes lyonnais.
Ouais.
Quel est l'endroit à Paris qui vous ressemblerait?
Quand j'étais au Conservatoire rue de Madrid, je m'étais laissé dire que comme Ravel et Debussy étaient dans ce conservatoire, ils montaient et descendaient le grand escalier. Je l'aurais bien fait assis dans l'escalier du conservatoire de la rue de Madrid. Après, c'est peut-être pas le plus pratique pour une émission de radio, un escalier.
Bah si, on s'assoit par terre, c'est pas grave.
Ok.
Là, on est
bon. Ça sera pour une autre fois.
D'accord.
Ce jour-là, nous étions à J-15 de la sortie de son film. Et il ne l'avait pas terminé. Alexandre Astier mettait la dernière touche à Kaamelott volet 2, partie 1, qui sort en salle mercredi prochain. Il en assure le scénario, la réalisation, la production, la musique, le montage et l'interprétation du roi Arthur, comme d'habitude. Parce qu'Alexandre Astier met en scène la quête du Graal depuis plus de 20 ans et l'univers qu'il a créé avec Kaamelott au début des années 2000 n'a cessé de muter. Il a aussi co-réalisé 2 Astérix en film d'animation, interprété Jean-Sébastien Bach sur scène et rempli Bercy tout seul avec une conférence érudite et humoristique sur l'astrophysique avant d'offrir à chaque spectateur une sucette à la framboise à la fin. Nous nous sommes assis côte à côte autour d'une table immense. Il a levé un sourcil en regardant mon micro et mon magnéto, mais il disparaîtra bientôt ce mot. Magnéto.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Ah. Qu'est-ce que vous avez? Un sound device? Mix Pre 3?
Ouais, c'est ça. Vous connaissez?
Vous en avez un?
Ah, d'accord. Vous connaissez bien la machine?
Très bien. Vous avez besoin d'un conseil ou tout? Non, on vous a complètement appris à vous en servir.
J'espère.
Bon, ça, en tout cas, c'est un micro dynamique, donc il faut le... Voilà.
Ça module bien, là?
Oui, ça module bien, là.
Vous savez comment tout fonctionne, vous, sur un plateau de tournage? Toutes les machines et tout?
Pas par obligation, parce que ça me plaît. Je ne maîtrise pas aussi bien que les gens qui sont là, mais je suis curieux de tout, oui. Et puis, ça fait partie des super trucs du cinéma, c'est qu'on bosse avec des machines folles.
A fortiori là, où il y a des éléments fantastiques dans le film. Ce qu'on appelle des trucages, comme on disait au XXe siècle.
On dit des VFX, maintenant.
Ah, pardon, je la refais. En plus, là, il y a des VFX. Ça fait pro, non?
C'est impressionnant. Oui, il y a des VFX. Alors après, les VFX peuvent marcher avec n'importe quelle caméra. Mais là, en plus de ça, on a une petite volonté de faire du grand spectacle. Donc, ouais.
Vous aviez envie de faire du grand spectacle?
Ah oui, j'ai toujours eu envie de faire du grand spectacle. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une chouette invitation. Et...
Et ça a commencé comme ça, par 3 notes qui sonnent le rappel pour Kaamelott, entre la météo et le début du repas. 3 notes entendues à la télé qui disaient « Rendez-vous au Moyen-Âge, avec le roi Arthur, sa mauvaise humeur, la recherche du Graal et sa bande de bras cassés pour chevalier ». Avant d'être une série, puis des longs-métrages en plusieurs volets, Kaamelott fut un film court, avec un petit budget. Nous étions en 2002, Alexandre Astier, en roi Arthur, accueillait ses chevaliers en latin. Ce court-métrage s'intitulait d'ailleurs « Dies Irae ».
Turris eburnea, domus aurea, sedes sapientiae. Bord.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous lis, là?
Eh bien... Non, dans l'ensemble, je suis assez d'accord.
Bon. Léo Dagan?
Ben, je dirais que, d'une manière générale, non, je suis relativement satisfait.
Bon, Caradoc, avant de roupiller complètement, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Pas grand-chose. Bon, ceci dit, je parle pas le latin.
Vous parlez pas le latin?
Ah non.
Il y en a combien qui parlent pas le latin ici? Il y a que Léo Dagan qui parle latin?
Oh, qui parle latin, j'ai quelques notions. Hein.
Je ne vois rien là de déshonorant.
Je parle pas de déshonneur, cher Duc. Enfin, c'est pas compliqué, on se voit quatre fois dans l'année. Aux saucisses, aux équinoxes, depuis bientôt 7 ans, vous attendez maintenant pour me dire que vous pigez rien à ce que je raconte.
Vous voyez plutôt ça comme une sorte de rituel.
Mais ça n'empêche pas de comprendre.
Ça fait 23 ans que cet univers fait partie de votre vie. Vous saviez que ce serait comme ça ou pas ?
Non, je ne savais pas que c'était comme ça. D'autant qu'en plus de ça, je n'ai pas une passion immodérée particulièrement pour le roi Arthur et la geste arthurienne. Ça aurait pu être un autre héros, en fait. Ce qui m'intéressait, c'est de me retrouver dans une situation où je parle à des gens qui ne me comprennent pas. Ça, j'adore ça, certainement depuis De Funès ou j'en sais rien, mais de placer un personnage à jouer avec un mec qui a besoin d'expliquer des choses un peu complexes en plus, comme le Graal, par exemple, qui n'a pas vraiment de réalité tangible, à des gens qui ne le comprennent pas ou qui le suivent difficilement. Ou qui, je sais que ça me plaisait, mais je ne savais pas que ça deviendrait ça. En revanche, il y a un truc de clair, c'est que ça fait partie de ma vie depuis 23 ans, à la condition que ça représente une expérience perpétuelle et des recherches permanentes. Donc tant que ça reste un terrain de jeu d'expérimentation, de découverte et de recherche et de travail avec les autres, je ressens rien en fait d'ennuyeux ou d'obligatoire.
Mais je reviens à ce que vous disiez sur le fait de mettre en scène un personnage que vous incarnez, que les autres ne comprennent pas. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans ?
Je vais vous répondre en miroir. Il n'y a rien qui m'agace plus que les films où tout le monde se comprend. Ça m'insupporte. Et souvent, en ce moment, c'est un peu les films de super-héros qui sont comme ça. C'est-à-dire que les gars ont une mission, et en fait, ils sont tous pour la mission, et ils se pigent tous, et ils parlent d'une seule voix. C'est plus complexe que ça. Hein. Il y a évidemment des conflits, mais pour moi, le problème de communication, c'est le problème du monde, et c'est même le problème de la race humaine. Comment se faire comprendre, et comment comprendre ? C'est ce qu'il y a de plus dur. Et j'aime beaucoup les situations où les gens ne se comprennent pas.
Alors, il y a le fait de ne pas se comprendre, mais il y a aussi le plaisir de voir la tête, et donc de filmer, celui qui ne comprend pas.
Absolument. Absolument. Sachant que, pour moi, le Graal, sans jeu de mots, de ça, c'est quand même Villeray dans le Dîner de cons.
Oui ? Les éditions Pierre Brochand, je voudrais parler à Monsieur Pignon, s'il vous plaît.
C'est moi ?
Villeray dans le Dîner de cons, quand il est filmé, avec une tête figée dans le marbre, résinée par l'incompréhension. Il n'y a pas une pulsation sanguine dans la carotide, il n'y a rien dans l'œil, dans la bouche. Il est figé, c'est pas passé. L'information est restée dans le tympan, elle n'a pas été traduite. C'est magnifique.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça.
Et voilà, pour moi, c'est un moment de cinéma absolument incroyable. Le mec ne peut pas prendre l'info.
Vous connaissez des répliques par cœur ?
Un paquet.
Là, celle qui vous viendrait, ce serait quoi ?
La première qui me viendrait, là,
pendant que vous engagez sur le pourcentage, moi, j'ai bien réfléchi, on est en pleine gaminerie, l'affaire est irréalisable.
Tiens, là, autre chose, maintenant.
Ça tient absolument pas debout.
Puis-je vous demander pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que ni vous ni moi ne connaissons rien au truc que nous voulons entreprendre.
Pourquoi ? Vous avez déjà fabriqué des livres sterling, toi ?
Non, mais le mari de cela.
Ouais, Marie.
Vous avez déjà vu son travail ?
T'as une preuve ?
Non.
Non, bon, alors...
Ça, c'est le caf se rebiffe.
Croyez-moi, vaut mieux relancer, mais sur une raison.
Audiard, donc.
C'est Audiard, ça, oui, absolument. Ce qui m'a permis de me rendre compte que Bernard Blier parlait à une vitesse absolument galactique. Il est quasi impossible à doubler Blier. Pourtant, il y a toutes les syllabes, il y a toutes les fins de mots, tout est extrêmement bien articulé. Pour autant, Bernard Blier c'est un sprinter. On s'en rend pas compte comme ça, mais essayer de parler à la vitesse de Blier dans le caf se rebiffe, c'est un exercice de comédien que je ferais volontiers faire à beaucoup d'élèves si j'étais prof.
J'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons.
Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure.
Ça veut dire que de Blier, effectivement, vous retenez surtout sa musique.
Oui, et Audiard avait besoin d'acteurs qui n'étaient pas pris par un état, ce que l'acteur appelle, ce qu'on appelle chez l'acteur l'état. Il ne faut pas qu'on soit encombré par l'état quand on joue des répliques.
C'est quoi l'état ?
L'état, c'est par exemple décider que ce monologue-là est en colère. Et vous remarquerez que chez Audiard, les acteurs qui parlent très bien le Audiard, Blier par exemple, n'est pas atteint par ce qu'il dit. Il le balance. Il ne le joue pas, il le balance. Il s'en débarrasse presque. Et c'est parce qu'il s'en débarrasse à toute vitesse qu'en fait, il y a le sens là-dessous.
Donc vous, quand vous écrivez, par exemple, vous avez en tête la façon dont les comédiens parlent ? Vous savez qui va dire quelle réplique avant même de faire le casting et tout ça ?
Mais c'est pire que ça, c'est que je ne fais pas de casting. C'est tout le problème de mon métier, comme je le fais, c'est que je dois obtenir l'accord d'un acteur sans texte. Parce que c'est parce qu'il va me dire oui que je vais écrire pour lui.
Ça veut dire que les gens, là, disent oui parce que c'est Alexandre Astier, parce que c'est la saga Kaamelott, et qu'ils ne savent pas quel sera ce qu'ils auront à dire, en fait.
C'est ça. Mais c'est très compliqué, notamment quand c'est des gens qui ont une carrière et qui font gaffe un peu à ne pas faire n'importe quoi, etc.
À qui vous pensez ?
À des gens qui ont une carrière et qui ont... et qui, voilà. Non, mais je le comprends. Je suis tellement méfiant moi-même sur les textes qu'on me donne que c'est normal. Mais après, moi, bon, on n'écrit pas pour moi spécialement. Hein. Je reçois un texte, je sais qu'il est passé dans les mains de Bidule avant, qu'il passera dans les mains de quelqu'un d'autre après. Je m'en fous un peu de ce système-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de l'accord, un peu de confiance avant de travailler. Je l'obtiens souvent, la quasi-totalité du temps. Mais c'est vrai que peut-être parce que les gens savent que je fais ça aussi pour écrire pour eux et que c'est quand même plutôt une bonne chose et que ça finira par être, si jamais je me plante pas trop, un truc qui va leur être facile à faire et même agréable à faire.
Prenons l'exemple de Guillaume Gallienne. À quoi vous avez pensé pour écrire le rôle de Gallienne ?
Alors j'ai pensé tout de suite à un type qui est extrêmement violent parce que son métier le requiert, il est chasseur de primes. Donc dans le KV1, on le voit...
KV1, c'est Kaamelott volé 1.
Kaamelott volé 1, pardon. On le voit à l'abordage d'un bateau, commencer par flinguer le capitaine à bout portant. Et le moteur de jeu qu'on a décidé tous les deux, c'était qu'on se rapprochait de la maîtresse dans la cour, la maîtresse avec des enfants. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, il tape des mains pour les réunir ou un truc comme ça. Mais il y a une espèce de fausse bienveillante, alors qu'on sait que c'est un salopard qui est capable de couler le bateau avec eux dedans. Tout ça, c'est un vrai salopard de film. Pour autant, il a une manière de présenter les choses où il commence d'ailleurs par dire « Alors voilà, je vais être très franc avec vous, je ne suis pas friand de voyage nautique. Oh, » c'est parce qu'il a les boules d'être en bateau.
« Vous êtes le capitaine. Oh » voilà. Non, je sais, c'est dur, c'est très dur. Il s'agit d'un geste fort, personne ne le contestera, mais qui a pour vertu de démontrer une solide détermination, pas,
et d'autre part, une totale inflexibilité. Qu'est-ce qu'il y a dans la cale ?
Des dates.
Alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas friand de voyages nautiques. Rien qu'à l'idée de m'être farci 11 jours de mer à vous courir après pour des dates.
Et quand on a Gallienne, moi c'est ça que j'ai envie de faire.
On s'en va.
C'est-à-dire un vrai personnage, bien pirate, bien chasseur de primes, avec un costard inquiétant, avec une arbalète, avec une capacité au meurtre évidente, mais avec une jolie langue, avec quelqu'un qui s'explique et qui s'exprime très correctement.
Et qui sait faire l'institutrice.
Et qui sait faire l'institutrice, parce que... Mais Gallienne, c'est un cas particulier, parce que Gallienne, vous pouvez lui demander le même texte en bleu, en vert, en orange, il vous le fera en bleu, en vert, en orange. Et si vous lui dites, est-ce que tu peux me faire le début en bleu et la fin en orange, il le fera comme ça. Et puis quand on a fini de tourner, le lendemain, quand on est dans un autre décor, il vient vous voir et il vous dit, tu sais, le texte d'hier, j'ai trouvé une autre couleur, on peut aussi le faire en vert pomme. Et je dis, oui, mais bon, on n'est plus dans le bon décor, Guillaume, on peut rien faire. Mais il continue de chercher. Il expérimente tout le temps. C'est pour ça que je crois qu'on s'entend bien. C'est comme moi aussi, ma petite manière, j'expérimente tout le temps. Ce qui compte pour lui, c'est combien de façons il y a de dire la même chose. Parce que, par exemple, si vous prenez une réplique comme « Tu m'emmerdes », On est d'accord que tu m'emmerdes si vous êtes dans une classe, comme je vois dans l'école d'acteurs de ma mère, des fois j'ai pu donner quelques leçons comme ça pour rendre service de temps en temps. Tu m'emmerdes, c'est agressif comme réplique.
Et c'est une info.
Tu m'emmerdes, on peut le dire vraiment d'un milliard de façons possibles, y compris avec beaucoup de gentillesse, comme le fait Gabin d'ailleurs avec Suzanne Flon dans Le Singe en hiver.
Tu vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes.
Albert.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
Et il est amoureux, ce tu m'emmerdes. Il est très beau, il est très tendre, il a aucune agressivité dedans. Et il y a encore toute une palette de tu m'emmerdes. Il faut choisir lequel on fait. D'ailleurs, une des techniques qui est très bonne pour trouver la couleur de son texte, c'est de les enlever, les mots. De faire du gna gna gna, ou de le dire dans une autre langue, ou...
Du yaourt.
Ça pourrait très bien marcher. Juste pour trouver le ton, pour trouver la couleur. Et une fois qu'on a trouvé la couleur, c'est orange foncé. Eh ben, on reprend le vrai texte et on met le orange foncé dessus. Mais un texte ne suggère aucun jeu. C'est ça qui est important.
Dans Kaamelott, le roi Arthur, comment il dit « tu m'emmerdes » ou « vous m'emmerdez » parce qu'il le dit.
Alors, celui que je préfère ?
Allez.
Celui que je préfère, c'est... quand, en fait, Arthur, ce que j'aime bien lui faire jouer, c'est... Il tient le coup, face à des discussions qui s'enlisent. C'est-à-dire que les gens, à force de digression, commencent à parler... beaucoup trop, et en fait on n'avance pas, et à un moment il sent que sa patience lâche et il dit tout ça, non voilà, ça y est, vous m'emmerdez, ça y est, c'est maintenant. Celui-là je l'aime beaucoup.
Frérot
Philippe,
alors
Catherine
comme ça, t'es plus mon frérot.
Frérot, c'est le titre de ce
on
morceau.
On va quand même pas renouer là-haut dans le grand pays blanc
quand on aura 200 ans
où on n'est pas sûr de trouver du blanc et de la bœuf pour parler comme avant. Non, rien n'est comme avant. Ça change tout le temps. C'est ça qui est effrayant. Non, désolé. Je sais que c'est des mots de daron. J'ai l'impression que tu me vois qu'en fraction. Alors que je suis ton frérot.
Peut-être que c'est fou.
C'est pour la vie qu'on est des frérots. Ça peut pas se qu'éblot sans un mot. Qu'est pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. L'histoire des hommes bégaye.
Il est humain de tuer un homme, mais inhumain de pas lui dire pourquoi.
Je sais pas qui a dit ça. Je crois bien que c'est moi, à toi. C'est comme si on m'avait tiré dans l'eau, même pas en m'appelant. Putain, tu m'appelleras quand tu seras réglo. Par l'oreille, tu feras mine de boire de la croc. Non, rien n'est comme avant. Ça change tout le temps. C'est ça qui est excitant.
Depuis plus de 20 ans, Alexandre Astier fait muter un univers qui compte 2 A, 1 K et 2 T. C'est Kaamelott. Depuis plus de 20 ans, Alexandre Astier incarne le roi Arthur. Donc ses cheveux blanchissent et son regard s'assombrit. Arthur est un héros, certes, mais d'une humeur ombrageuse et pas loin de la dépression. Suite de la conversation avec Alexandre Astier dans Totemic ce matin.
Le procédé technique qui consiste à fabriquer un héros, c'est de fabriquer un personnage pour lequel on s'inquiète. Regardez Soprano, la série Soprano. James Gandolfini, il joue un personnage violent.
De mafieux.
Injuste. Raciste. Homophobe. Il a tous les défauts de la terre. Il est adultère, il est tout ce qu'on veut. Mais pour qui s'inquiète-t-on? Pour lui. Et en fait, on n'a pas à s'inquiéter pour quelqu'un qui est valable. On a à s'inquiéter pour celui qui souffre le plus. Et ça, c'est la magie de l'histoire, c'est la magie de la fiction. Si vous débutez un film et que vous ne connaissez aucun acteur et aucun personnage qu'il y a sur l'écran, et qu'il y en a deux qui tapent sur un, le héros, c'est celui qui est un. C'est tout, c'est automatique. Et si vous voulez vous assurer que le public s'inquiète pour le bon, vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans votre compte en banque et vous demandez à Harrison Ford de le faire. Et là, vous êtes sûr que le héros est déjà marqué. Je crois même qu'Harrison Ford est tellement un héros qu'il pourrait faire partie d'une bande qui tape un enfant. Ce serait quand même encore un héros. Je suis sûr qu'on se dirait, non, mais attends, il va se passer quelque chose où on va nous expliquer que c'est pas vrai, puisque c'est Harrison Ford. Mais c'est pour ça qu'il coûte cher, Harrison Ford. Vous vous rendez compte, d'un point de vue du scénario, ce que vous économisez en explication? Le mec, vous faites... Image 1, sa tête à l'écran, c'est lui le héros. C'est magique, et c'est cher.
Oui, mais ce qui est intéressant dans vos héros à vous, c'est que c'est des gars qui refusent l'idée de la performance.
Oui, alors, c'est pas pour rien que l'antagoniste, donc protagoniste, c'est Arthur, c'est le premier qui souffre, et l'antagoniste, c'est celui qui présente le miroir, et celui qui présente le miroir, c'est un mec élitiste, c'est Lancelot. C'est un type qui dit, depuis le début, hein, on devrait virer les nuls et on devrait prendre que des chevaliers super entraînés ou des mercenaires qu'on paye très cher et trouver le Graal à tout prix et mettre tous les moyens à notre disposition. Et vous avez un Arthur qui dit, non, non, moi je bosse avec les mecs qui sont là.
Avec des armoires.
Avec des armoires, peut-être, ça c'est votre jugement à vous.
Avec des bras cassés.
Arthur, il dit pas ça. Si, il le dit des fois, ouais. Mais parce qu'il le dit, il le constate. Mais c'est quand même le gars qui fait avec...
Avec ce qu'il y a.
Oui, mais presque par... Il y a un monologue dans... qui avait deux premières parties.
Kaamelott volet 2, première partie.
Il y a un petit monologue, il y a un long monologue d'Arthur qui parle de ça. Et qui en dévoile un petit peu plus sur ses motivations, en fait. Parce que c'est quand même un gars qui est démotivé d'une manière générale. Et qui a un problème avec la motivation. Alors pas forcément celle des autres, mais la sienne. Je pense qu'Arthur est un vrai héros. Parce qu'il propose au public de venir le rejoindre dans son inconfort, dans ses incertitudes. Et surtout dans ses démotivations et ses découragements. Parce que ça, c'est l'histoire de nous tous, en fait. Et je pense que c'est ça, un héros, en fait. C'est quelqu'un qui partage ça.
Vous, dans votre métier, vous vous êtes déjà découragé?
Je passe mon temps à me décourager. Moi, c'est un découragement perpétuel. Mais il est tellement perpétuel que j'en ai fait un copain du découragement. C'est comme ça. Donc, je suis découragé, d'une manière générale. Et puis, de temps en temps, je dis, bon, bah, découragé ou pas, allez, 3, 2, 1, départ.
Et là, vous vous remotivez?
En tout cas, je me donne plus le choix. Je fais qu'avancer. Après, je regarde pas sur les côtés, je regarde pas derrière, je regarde pas devant. Il y a une date, c'est celle de la sortie au cinéma. Mais après, ça m'appartient plus. Ça, c'est la fin de mon bloc, après.
Ça vous sert à quoi d'être dans l'urgence, à ce point?
Échapper à la critique, la mienne. Échapper au fait d'être insuffisant par rapport à ce que je voudrais. L'urgence, ça m'oblige à fournir, en fait. Sinon, je fournirai jamais, je pense.
Et la fatigue? Parce que vous parlez de là, vous sortez quand même d'un tournage de 8 mois, ce qui est une durée franchement inédite. Quand vous faisiez Kaamelott, la série, c'était... je crois que vous écriviez la veille pour le lendemain, donc vous travailliez la nuit, donc en gros, vous dormiez pas. La fatigue, elle apporte quoi? Voire l'épuisement, je dirais. La même chose, d'échapper au fait de l'autocritique?
Oui, et puis il y a une espèce d'état second, en fait, qui fait que, pour moi, un des buts de quelqu'un qui invente des choses, c'est de contourner son cerveau. Je fais gaffe à pas m'arrêter à l'intellect et à essayer de laisser parler l'instinct. D'essayer de faire en sorte que l'instinct écrive à ma place, par exemple.
Et comme c'est... un dessin de gosse.
Exactement. Sauf que pour faire ça, moi, qui ne prends aucun produit d'aucune sorte, la fatigue, c'est un peu un compagnon pour ça.
La fatigue, c'est votre drogue?
La fatigue, c'est ma drogue. C'est mon laudanum. Allez, choisissons celui-là. Je ne veux pas être sûr de ce que je fais. Je veux expérimenter. Et j'ai l'impression que ce que je dois aux gens, qui ont la gentillesse d'essayer de regarder ce que je fais, de voir si ça leur plaît, qui restent curieux, ce que je leur dois, c'est de leur promettre que tout est expérimental. Et que c'est pas le produit d'un truc qui a été formaté, ou le produit d'un truc où j'ai délégué des 15 kilos de trucs parce que j'ai laissé faire les autres parce que je suis crevé. Ce que je dois, en fait, c'est que c'est le résultat signé d'un gars qui a expérimenté son nouveau monde. C'est-à-dire, moi, KV2, c'est celui que j'ai fait quand j'avais 50 ans. KV1, c'était celui que j'ai fait quand j'avais, je sais pas quel âge, 45. J'essaye de donner quelque chose au moment où je le fais. Sincère au moment où je suis. Donc, il faut que j'envoie des choses aux gens en se disant « Je ne sais pas ce que vous allez faire de ça. » Et puis, il se passe ce qui se passe.
Dans Totemic, il se passe « Loser ». Loser, c'est le titre de ce morceau de Tame Impala. Générique du nouveau Kaamelott figurent des comédiens qu'on peut dire historiques, comme Alain Chabat, qui est là depuis le début, par exemple. Sont arrivés Guillaume Gallienne, Haroun ou Virginie Ledoyen, mais aussi Ethan Astier, James Astier, Ariane Astier, Jeanne Astier, les enfants qui sont nés et ont grandi avec la série finalement. Kaamelott est une saga et l'histoire d'une famille de comédiens. Alexandre Astier est dans Totemic ce matin.
Mes parents sont enfants d'un monde ouvrier, dans le cas de ma mère d'ouvrier issu de l'immigration italienne-espagnole. La position d'artiste, de comédien en l'occurrence, est déjà un risque en soi. C'est-à-dire qu'ils ont pris le risque d'exercer une profession que leurs parents n'ont pas comprise. C'est une fracture que j'ai pas eu à exercer, moi, par exemple. Moi, je fais un métier qui est
dans la continuité de vos parents.
Voilà. Donc, moi, j'ai pas de traumatisme, je ne rentrais pas quand j'étais petit à la maison, quand je composais toute la nuit et que je me levais pas pour aller au bahut. Je n'étais pas entouré de gens qui pensaient que j'étais en train de perdre pied. J'étais entouré de gens qui pouvaient regretter que j'aille pas au bahut, mais qui, dans un coin de leur tête, se disaient ouais, enfin, et en même temps, s'il est là, c'est peut-être pas pour rien. Donc, c'est quand même un sacré allié, le fait de pas avoir à rompre soi-même ces choses-là.
Vous composiez toute la nuit, parce que, au départ, votre formation, c'est celle de musicien. Vous avez composé toutes les musiques de Kaamelott. De la série à la bande originale de Kaamelott. Volet 2, partie 1. Mmh. J'ai bien dit ?
Très bien.
Est-ce que vous avez un modèle pour ce qui concerne les compositeurs de musique de film.
Oui, alors bah c'est pas très original, mais c'est moi j'aime John Williams.
Donc compositeur de Star Wars. Oui. Les Dents de la Mer. Indiana Jones.
Mais j'en ai un autre, en fait, dont je parle moins souvent, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Richard Robbins, et qui était le compositeur un peu attitré de James Ivory, donc qui a fait la musique des Vestiges du Jour, de Retour à World's End, qui est un compositeur qui est un peu plus discret que John Williams, évidemment, mais qui pour autant développe des thèmes et des choses un peu répétitives, un peu sur les ostinatiques qui m'ont toujours vraiment bouleversé. Le mélange de la musique de Robbins et des Vestiges du Jour, je le trouve absolument fascinant. C'est une des musiques de films les plus réussies de tout le cinéma. Cette espèce de mouvement perpétuel là, qui, sans vouloir lui donner un sens particulier, mais il y a aussi une répétition chez ces personnages là qui n'arrivent jamais à se parler et qui tous les jours se refont les mêmes erreurs. Ce cycle là éternel est hyper bien représenté par cette musique, et cette musique m'a toujours fasciné parce qu'elle n'est pas complexe. La musique de Williams est très complexe. Elle est vraiment, c'est dans la tradition de la grande symphonie, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de Wagner, il y a beaucoup de Korngold, il y a beaucoup de Stravinsky, il y a une culture musicale très éclectique chez lui. Mais pour autant, cette musique de Robbins m'a toujours fasciné parce qu'en fait, elle est là pour exprimer quelque chose. Elle n'est pas forcément là pour être une démonstration de force. La musique de John Williams, c'est une démonstration de force. On peut l'étudier en harmonie autant qu'on étudierait un grand compositeur. C'est aussi riche, vaste et étudié qu'un Stravinsky. C'est à ce niveau-là, quoi. Mais il y a aussi des musiques, ouais, comme celle de Robbins, qui sont peut-être un poil plus abordables d'un point de vue technique, d'un point de vue concret de l'écriture, mais qui sont d'une efficacité redoutable et d'une grande émotion surtout.
Aux invités de Totémique, je demande de choisir un tube, mais on m'a précisé dans le mail qu'on m'a envoyé, entre parenthèses, Alexandre n'écoute pas de chansons.
Alors, ça fait toujours... c'est toujours extrêmement raide et rêche. Si, j'écoute des chansons, mais j'ai précisé que j'avais pas compris tout à fait si vous parliez d'un truc d'ado et tout ça. Je l'ai compris comme ça. Qu'est-ce que j'ai écouté un peu ado. Okay. Et effectivement, j'écoutais de la musique instrumentale, mais parce que je baignais dans la musique et que la chanson est pas forcément le truc le plus représentatif des musiciens, on est d'accord. Il y a des choses qui sont... Voilà. Donc j'écoutais des trucs, dont un qui a bercé mon adolescence. Et voilà, donc ça veut pas dire que j'écoutais pas de chansons, mais c'est vrai que j'étais pas comme certains de mes copains et copines, à fond dans le top 50, vous voyez, pour ceux qui savent encore ce que c'est.
Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs de France Inter.
Oh, qu'est-ce que vous avez pas dit là ? Oh, vous êtes fou de dire ça, mais c'est d'une impolitesse rare.
J'aimerais vous faire écouter le tube que vous avez choisi.
Oui.
Pour Totémique, Alexandre Astier a donc choisi le morceau Toutou, co-composé par Miles Davis et Marcus Miller à la basse.
Conservatoire de Lyon, quand j'étais ado, j'étais dans ce qu'on appelle toujours les horaires aménagés. Les horaires aménagés, vous faites de l'école et de la musique tous les jours. Mais j'ai surtout fait ma scolarité dans un environnement extrêmement privilégié, puisque c'est le conservatoire. Une classe où on était 15, 16, trois garçons pour tout le reste de filles, des petites salles avec des moquettes, des pianos de partout, des portraits de compositeurs célèbres. Et dans ce conservatoire, il y avait une discothèque, ce qu'on appelait la discothèque. C'est pas du tout pour danser, c'est un endroit pour écouter des disques. Et tous les jours, entre midi et deux, après la cantine, j'allais à la discothèque, elle était vide, et je lui disais « je voudrais Toutou » de Miles Davis, et il me passait ça dans le casque, et je me souviens du bruit du lecteur CD qui re-rentrait dans le truc, et j'étais littéralement fasciné par ce morceau, et par Marcus Miller en général.
Marcus Miller étant le bassiste, et celui qui a co-composé le disque avec Miles Davis.
Oh, il a pas co-composé, il a composé, hein. Et cette manière d'arranger, cette manière de ce qu'on appelait un peu le... Je sais pas si c'était le fusion, hein, je sais pas, il n'y avait pas tellement de nom à ce truc-là. Mais pour moi, Marcus Miller, ça a été mon modèle de... J'ai vraiment cherché à composer comme lui tout le temps. J'avais monté un groupe où je composais des musiques comme ça, dans ce genre. Et j'étais fasciné par cette musique, vraiment. Qui est une musique typique de studio, hein, on n'est pas dans le live, là, on est vraiment dans l'étude du son. Il est vraiment garé devant. Hein.
Ouais. On va juste attendre que ça passe 2 minutes. Alors, il y a juste un petit élément d'habillage qui consiste à dire Alexandre Astier, Rebecca Manzoni, c'est Totémique étant le nom de l'émission, sur France Inter.
Je dis tout ?
Oui.
Alexandre Astier, Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
Super.
Vous disiez ?
Vous êtes musicien avant cinéaste ou cinéaste avant musicien, Alexandre Astier ?
Je crois que je suis musicien avant n'importe quoi. Je monte, par exemple, je monte mes films tout seul, mais je les monte au son. Ce qui compte, c'est comment ça sonne, en fait. D'ailleurs, je passe mon temps à fermer les yeux sur le banc de montage. Je l'ai remarqué tardivement, j'avais pas fait gaffe. Mais en fait, la première étape, c'est toujours de fermer les yeux et de se dire comment on essaye de donner vie et de faire croire à une immédiateté à des choses qui ont été tournées en petits bouts et saucissonnées dans tous les sens. On essaye de faire croire que ça n'a pas été saucissonné et que c'est pris sur le vif. Tout ça, c'est de la triche. Et c'est l'art de faire croiser des répliques, de faire en sorte que machin va couper machin. Lui, il parle plus tôt, lui, il parle plus tard. Lui, il faut le temps que ça monte au cerveau. Lui, il faut le temps que ça ressorte. Et tout ça, pour que ça ait l'air vrai, parce qu'on est en train, encore une fois, d'essayer de faire croire que c'est vrai alors que c'est faux, tout ça, c'est le son, pour moi. Que le son. Je peux me passer d'image très, très longtemps. Et puis après, je regarde ce que j'ai fait au son et je regarde l'image qu'il y a dessus. Donc souvent, c'est le bordel. Souvent, ça ne matche pas. Il y a des erreurs raccords de partout et les mecs qui parlent, ils ne devraient pas. Donc après, c'est un autre boulot. Il faut aller chercher les plans de coupe, il faut aller montrer les uns les autres et se débrouiller pour que ça sonne comme ça. Mais je me souviens, pour Astérix, j'avais fait ça.
En 2014, Alexandre Astier a co-réalisé Astérix, le domaine des dieux, avec Louis Clichy. C'est un film d'animation adapté de l'histoire inventée par René Goscinny et dessiné par Albert Uderzo. 4 ans plus tard, 2018 donc, Alexandre Astier co-réalise, toujours avec Louis Clichy, de nouvelles aventures d'Astérix en écrivant un scénario original. Le titre, Astérix, le secret de la potion magique. Parmi les voix du film, le chef Abraracoursix est joué par Serge Papagali et sa femme, Bonne Mine, à la voix de Florence Foresti.
Il n'y a plus une goutte de potion magique. Alors, puisque tu as été désigné chef du village...
Tiens !
Puisque tu as été désigné chef du village, dis-nous donc ce qu'on fait.
Soit. Eh bien, ma foi, en tant que chef, je pense que la meilleure chose à faire est d'espérer que les Romains n'attaquent plus. J'ai bon ? Ou pas ?
On les a enregistrés en radio, quasiment. En fiction radio.
Et après, vous avez
on
fait la...
dessus. Avec Louis Clichy a organisé toute l'animation et les dessins autour des sons, du son qui a été fait tout de suite. Mais c'était la première étape, parce que c'est celle qui donne le rythme. J'ai fait des montages de répliques, et c'est à partir de là que s'est passé le truc. Parce que ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à le lâcher.
Le son, vous avez du mal à lâcher.
Le rythme. Le rythme, surtout.
J'aimerais qu'on écoute la voix de Goscinny.
Allons-y. Avec les oreillettes aussi ?
Ouais. C'était dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel en 1972. Mm-hmm. Vous n'étiez pas né, je crois.
Non.
Vous êtes un humoriste.
Je suis un amuseur.
plutôt qu'un humoriste.
Pour moi, oui. Je croyais être un humoriste, mais les descriptions que l'on m'a fait des humoristes, finalement, ne me conviennent pas. L'humoriste devenant surtout un moraliste, un philosophe, un homme engagé. Et moi, finalement, mes buts sont beaucoup plus simples. Et moi, c'est toujours ce but de faire rire. Par conséquent, je pense qu'il me convient mieux de dire que je suis un amuseur, un rigolo. Je sais que ça va surprendre certains, mais je suis un homme extrêmement timide et l'humour a toujours été pour moi une sorte de défense, de pudeur.
Alors, moi je reconnais la pudeur, ça, je suis absolument certain que je partage ça avec lui, je suis certain de ça. Mais mon but n'est pas de faire rire, du tout. Je trouve que c'est pas une jolie promesse en fait, bizarrement.
Ah oui ?
C'est un peu, j'ai pas envie de faire de parallèle inélégant, mais c'est un peu comme si vous proposiez la fin sans le début, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous disiez, tu vas prendre du plaisir. J'aime pas tu vas prendre du plaisir. Je préfère qu'on dise, on va faire un truc ensemble. C'est mieux. Pour moi, le rire, c'est la fin. C'est une proposition de sensation. Mais il y a de très mauvais rires. J'ai entendu des salles rire aux éclats, aux larmes, en se tapant sur les cuisses, en entendant des choses complètement nulles, voire même qui est un peu limite, pas bien du tout, du tout, un peu facho, un peu machin, un peu réac. Donc en fait, le rire, c'est une preuve de rien du tout.
Extrait d'une conversation programmation musicale pour Totemic avec J.B. Audibert et Stéphane Le Guenec. Cachemire de Led Zeppelin entre 9 et 10, on en a envie, non ? Ouais, mais ça dure 10 minutes. On sera obligé de diffuser moins, mais peut-être que c'est mieux que rien.
Top of
sun. There's the ground.
Alexandre Astier, comédien, réalisateur, musicien, scénariste, producteur et créateur de Kaamelott est dans Totemic ce matin. On passe à votre carte blanche ?
Si vous voulez.
Bah, je veux
merde,
bien.
Mes lunettes.
Ah. Vous pouvez les chercher.
C'est-à-dire, le problème, c'est que la presbytie m'a atteint il y a très peu de temps, mais avec une grande violence. Et putain, je vois plus rien. Je le prends comme une déchéance.
À ce point-là ?
Ah, c'est pas agréable, quand même. C'est ça, quand même, ça se rappelle à vous. Alors, je vais vous lire quelques traductions de phrases de Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien américain, que j'aime beaucoup. En préambule, là où je me sens vraiment bien quand il parle, cet homme-là, c'est que je suis très allergique à la superstition. Toutes les superstitions. L'autre jour, j'étais dans un restaurant avec mon ami Jean-Christophe Ambert, et on s'est fait alpaguer par un jeune homme avec une mallette qui disait « Bonjour messieurs, je vous entendais parler. Quel est votre rapport avec Dieu ? Est-ce qu'on vous parle souvent de Dieu ?» Alors je dis « Écoutez, monsieur, je suis avec mon ami, là, foutez-moi la paix, j'ai pas envie de... » voilà. Parce que Dieu nous explique que... Alors je dis « Voilà, attendez, on ne s'est pas compris, s'il vous plaît, je voudrais que vous me laissiez tranquille, vraiment. » Il dit « Très bien, monsieur, je respecte, etc. » Il se tourne vers Jean-Christophe. « Et vous, monsieur, Dieu, machin, etc. » Et Jean-Christophe lui dit « Écoutez, il faut partez, quoi, vraiment, partez. »« Très bien, monsieur, je m'en vais. » Et puis il se retourne avant la porte d'entrée en disant « Dieu vous bénisse, messieurs, machin. » Enfin, ils me terrorisent, ces gens.
Mais là, on pourrait vous opposer qu'il ne s'agisse pas de superstition, mais de religion.
Pour moi, la religion, si c'est une tradition familiale, si c'est un truc auquel on tient... Vous voulez porter un truc sur la tête, un truc machin, une croix au cou, un bidule, parce que ça vous fait du bien, parce que vous vous sentez appartenir à un truc, parce que... Voilà. Si jamais ça devient sérieux, je suis terrorisé. Je crois que Neil deGrasse Tyson explique un truc très bien, 100 000 fois de mieux que moi. Il dit, la science, elle voit un point d'interrogation, elle va essayer d'expérimenter pour comprendre et lever le point d'interrogation. Si jamais les expériences mènent au fait de comprendre quelque chose, ce travail d'expérimentation va être vérifié, il va être contredit, il va être mis à l'épreuve de tous les scientifiques qui vont se pencher sur quelque chose. Et une chose qui va être acquise, admise, elle aura été vérifiée 100 000 fois. Pour autant, les scientifiques, quand ils répondent pas à un point d'interrogation, ils laissent le point d'interrogation et ils l'appellent point d'interrogation. Là où la religion est très dangereuse pour moi, c'est qu'elle répond quand même. Donc, c'est pas moi qui parle, c'est Neil deGrasse Tyson, quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi, qui vous pouvez faire confiance, et qui nous dit des choses comme ça. C'est à l'appel, hein. c'est des petites citations à l'appel comme ça. Si tout ce que vous voyez, faites, mesurez et découvrez est la volonté d'une divinité, alors les idées ne pourront jamais être invalidées. Vous n'avez aucun pouvoir de prédiction. J'aime beaucoup cette phrase. Je m'oppose à l'enseignement de la religion dans les classes de sciences, non pas parce que c'est de la religion, mais parce que ce n'est pas de la science. Il est bien, cet homme-là. Le mystère est magnifique. Dire « je ne sais pas », c'est la plus belle chose qu'on puisse dire. Dites « je ne sais pas ». Enfin bref, que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais voilà. J'ai lu Neil deGrasse Tyson.
On termine avec une séance photo.
Oui. J'aime beaucoup cet appareil.
Ah oui ? Il est vieux. Hein.
Oui, mais il marche.
Oui, normalement. Vous vous mettez devant le miroir, qu'est-ce que vous pensez ?
Un truc avec la lampe ?
Ouais. Non ?
Si, ouais. Est-ce qu'il va avoir fait sa lumière sur la lampe ou sur un...
Je sais pas.
Ah bon, faut la mettre sous l'aisselle ?
Faut jamais frotter.
D'accord.
Il faut pas éventer.
J'ignorais. Alors ?
Là, c'est vraiment un insta. C'est parfait. Enfin, moi, je trouve ça parfait, après.
Ah, très bien.
C'est-à-dire que combien de photographes auraient dit « Ne vous mettez pas si près de la lampe ». Mais nous, on n'est pas... Voilà, on va pas se laisser avoir par... Hein, comment on fait les choses ? Donc, on se met à côté de la lampe. En tout cas, moi, je la valide. J'espère que vos auditeurs l'apprécieront.
Et vous ressembleriez à qui ?
Je ressemble pas mal à mon oncle, le frère de ma mère, qui a pris beaucoup des Espagnols, je crois. J'ai l'impression que je ressemble à la branche espagnole de ma famille, un peu.
Oh, je voulais vous faire écouter Paco de Lucia.
Ah ben, et puis je l'écoute souvent.
C'est vrai ?
Très souvent. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que je pense que je suis assez touché par l'Espagne, parce que... Quand je mets Paco de Lucia, j'ai plus d'énergie. Je conduis plus vite, par exemple. C'est pas bien.
Merci, Alexandre Astier.
Merci beaucoup, chère Rebecca.
Kaamelott, volet 2, partie 1, est en salle mercredi prochain 22 octobre et la bande originale du film, composée par Alexandre Astier et enregistrée avec l'Orchestre National de Lyon, est disponible chez Deutsche Grammophon. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Guillaume Roux ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve la documentation et tous les nombreux sons. Quant à JB Audibert, il prend soin de nos disques. La semaine prochaine, je vous propose la réécoute non pas de un mais de deux portraits. Adèle Exarchopoulos et Charlotte Rampling. Et la semaine suivante, rendez-vous dans les bureaux de Jérôme Commandeur.